10h22 minutes, bienvenue dans Trudeau Landry pour nous joindre. 25-226 via texto, vous êtes encore très, très nombreux à nous écrire ce matin. Et par téléphone, sans frais, le 1-877-670-9330. On a fait état en fin de semaine d'un cap. Je pense que c'est un cap symbolique, mais en même temps, il y a certainement quelque chose à prendre au sérieux là-dedans. On a franchi le cap des 100 000 cas au Québec de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est des cas quotidiens, hier, on était, je pense, c'était
879. On parle là, d'un bilan qui va être autour des 800 cas aujourd'hui.
Okay. Donc, on réussit pas facilement, disons, à briser l'espèce de plateau autour de 1000. On est un peu en bas de 1000, mais disons que la vague s'est peut-être stabilisée, mais je ne pense pas qu'on ait réussi à la casser. Hier, en Ontario, il y avait plus de cas qu'au Québec. Au-dessus de 1000 cas hier répertoriés en Ontario. Tu vois, tu sais qu'au Québec, on a franchi le cap des 100 000 cas hier depuis le début de la pandémie. Pour en parler, on va aller retrouver et faire le point sur la pandémie, le chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le docteur François Marquis. Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous dit, ça, le cap des 100 000 cas? Est-ce que c'est uniquement un symbole? Est-ce qu'on doit... comment on doit remettre ce chiffre-là dans le contexte?
Bien, effectivement, le 100 000, hein, il n'y a pas le choix, il va aller qu'en augmentant. Il n'y a aucune façon qu'il diminue un jour, il va arrêter de monter, mais il ne peut pas descendre. Donc, effectivement, c'est une façon de regarder l'impact global que ça a eu sur notre société, mais c'est définitivement son augmentation, c'est le changement, c'est la tendance qui est beaucoup, beaucoup plus pertinente. Le 100 000, c'est un gros chiffre. Je pense que ça peut servir à dire au Québec, brassez-vous, c'est pas encore fini. C'est très pertinent. Le 100 000 peut combattre l'espèce de fatigue intellectuelle qu'on a d'entendre parler de la COVID. Ouais. Parce que ça, c'est une autre arme de ce virus-là. Le jour où il nous a tanné de le combattre, le party va pogner pour lui, là.
Docteur Marquis, comment le Québec se compare avec ses voisins? Jérôme mentionnait l'Ontario. Puis je pose la question parce que dans notre analyse de la situation, nous-mêmes, on le fait comme observateur de commentateur de l'actualité, mais les gens nous parlent beaucoup du système de santé québécois qui était vulnérable, qui n'était pas assez solide, qu'il va falloir réformer après la pandémie, retenir des leçons. Mais les autres provinces aussi ont certains problèmes avec des systèmes de santé qui peuvent être différents. Bref, on se compare comment par rapport à nos voisins?
Mais en fait, je pense que c'est un excellent point et c'est une grande erreur que de se comparer aux voisins pour les mêmes raisons. Ce qui se passe en Ontario, honnêtement, le seul impact que ça peut avoir, c'est que s'il y a vraiment beaucoup de monde à Ottawa qui sont très malades, ben Ottawa, c'est vraiment proche des Gatineau. C'est qu'honnêtement, c'est le seul intérêt que ça a. Ça peut donner une fausse impression qu'on est bon, hein, dans le sens où on se dit « Ah, ben c'est pas si pire chez nous ». Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire énormément de travail. Oui, le système de santé avait des faiblesses, et si le système de santé avait eu d'autres faiblesses, le virus se serait manifesté à d'autres endroits. Donc, honnêtement, les leçons à en tirer, il va y en avoir beaucoup, mais on ne pourra jamais avoir un système de santé qui va être prêt à 100% contre des pandémies, parce que ça voudrait dire, par exemple, d'avoir des hôpitaux avec du personnel qui ne serait dédié qu'à une hypothétique pandémie qui serait fermée pour des générations. Ah ouais. Ça n'a pas de sens de faire ça. Donc, il faut rester grandé dans le réel, comme on dit, et la comparaison avec nos voisins, en dehors de regarder où sont leurs éclosions pour être certain que ça ne va pas arriver chez nous, c'est peu ou pas intéressant pour moi.
Docteur Marquis, on s'attend à ce qu'en fin de journée aujourd'hui, le premier ministre Legault annonce la prolongation des mesures sanitaires en zone rouge. Comment on doit analyser la courbe? Parce que j'ai l'impression qu'on est pris sur une espèce de plateau autour de 1000 cas par jour. Là, on est un peu en bas, autour de 800 cas. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais la courbe, on réussit pas avec les mesures à faire diminuer l'augmentation, mais d'autres vont dire que c'est grâce aux mesures que la courbe est aplatie, que la courbe se maintient, en tout cas, autour avec ce plateau-là. Comment on doit se démêler dans tout ça, là?
Ben, en fait, moi, je fais vraiment partie du camp de ceux qui pensent que si on a atteint un plateau, c'est vraiment en raison des mesures qui sont là. Maintenant, pourquoi ça n'arrive pas à diminuer? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas et qu'il y a quand même des éclosions qui se produisent. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'éclosions. Il y en a qui sont vraiment liés à la malchance qu'on peut pas prévoir. Il y en a qui sont liés vraiment à un élément de désobéissant, qui font des choses qu'ils devraient pas faire et qui provoquent des contaminations. Donc, pour moi, le fait qu'on ait atteint un plateau. Et ce plateau-là, j'aimerais souligner qu'il nous donne pas énormément de marge de manœuvre dans le système de santé. Hein. C'est pas un plateau confortable. On est content de l'avoir, mais pour maintenir les activités normales du système de santé, il faudrait pas qu'on ait bien plus de cas qu'on a là. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, que c'est un succès, ce plateau-là. Je pense qu'on doit le prendre comme un succès, mais surtout pas pour se justifier de diminuer quoi que ce soit dans nos mesures, parce que si on a une augmentation de 20 % des cas, là, la question va se poser, est-ce que notre système de santé est capable de prendre 20 % de cas de plus? C'est pas beaucoup, 20 % là. Ça prend une ou deux belles éclosions. Donc, et pour certaines régions, 20 % selon leurs ressources, 20 % à Montréal, c'est beaucoup plus que 20 % dans une région plus rurale, là. Donc, pour les régions, c'est encore plus sensible que pour les grands centres.
Dans un établissement comme le vôtre, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comment se compare la situation actuelle à ce que vous avez vécu dans la première vague? Parce que certains vont dire, ouais, mais pourtant le niveau d'hospitalisation est pas aussi élevé que ce qu'on a connu dans la première vague. Donc, d'un, comment on les compare? Et de deux, est-ce qu'on doit, dans l'équation, entrer le facteur humain? C'est-à-dire le facteur fatigue, par exemple, du personnel.
Mais en fait, le facteur humain doit toujours être pris en compte, peu importe la crise dans laquelle que la société traverse. Maintenant, si on compare à Montréal, la deuxième vague est fondamentalement différente de la première. La première vague, c'était une montagne d'admission et 110 % des ressources du système dédiées à la COVID, avec une paralysie essentiellement complète de tout le reste, sauf pour les urgences vitales. La deuxième vague, c'est vraiment plus comme un feu de braise, c'est vraiment comme un barbecue low and slow, où on a des cas qui rentrent à chaque jour, on a des cas qui sortent à chaque jour, et on a un pourcentage significatif de nos ressources dédiées à la COVID, mais l'hôpital continue de fonctionner. Alors que dans la région de Québec, ça se manifeste beaucoup plus comme la première vague, c'est-à-dire une grande montée de cas avec des hôpitaux qui sont beaucoup plus paralysés par la COVID. C'est normal, la région de Québec, c'est comme la première vague. Nous, on est rendu vraiment une deuxième, et la deuxième vague, c'est presque une maladie différente dans sa façon de fonctionner. Mais le défi de la deuxième vague, quand les gens arrivent à la deuxième vague, c'est le maintien des activités courantes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte la fatigue due à la première vague, l'utilisation des ressources et toutes ces choses-là. C'est complètement une illusion que de se dire que c'est moins dangereux ou moins important parce qu'il y a moins d'hospitalisation en termes de nombre absolu dans les soins intensifs. Et je pense que c'est ça le message. On peut pas comparer les chiffres de la première vague avec les chiffres de la deuxième vague, parce que les manifestations épidémiologiques sont complètement différentes. Et donc, présentement, avec ce qu'on a là, en deuxième vague, le système de santé roule pas mal à son maximum.
Docteur Marquis, je veux pas vous faire de la politique, mais par exemple, la semaine dernière, il y a des restaurateurs qui ont écrit au premier ministre pour dire, est-ce qu'on pourrait pas déconfiner un peu plus? Est-ce qu'on pourrait pas rouvrir, par exemple, les salles à manger? Aujourd'hui, lundi, ce sont les gyms. 200 représentants de gyms au Québec qui demandent de rouvrir. Certains disent même qu'ils vont réouvrir le 29 malgré les mesures qui devraient être encore en vigueur. Mais ce que je comprends de vos propos, c'est que, le temps n'est pas à un déconfinement, là. Le temps n'est pas à redonner un petit peu plus de lousse aux gens présentement, là.
Effectivement, c'est pas un bon moment pour ça. Et toute forme de regroupement hâtif, on pourrait s'en mordre les doigts solidement dans deux semaines, et ça pourrait nous faire un recul extrêmement significatif. Intellectuellement, je comprends leur frustration, mais c'est à ce moment-ci qu'il faut pas lâcher, parce que le virus, là, il attend juste ça. Et honnêtement, réouvrir les gyms d'un coup, là, ne serait-ce que pour une journée, ça serait probablement un impact beaucoup plus effrayant encore qu'un karaoké.
C'est juste que ça devient difficile, puis je sais que vous travaillez beaucoup, Dr. Marquis, mais les gens constatent actuellement, puis ça a été le cas encore en fin de semaine, les gens voient qu'il y a beaucoup de clients, par exemple, dans les centres commerciaux, que la distanciation n'est pas toujours observée. Puis on se dit, ben écoute, comment ça que le gouvernement permet aux centres commerciaux de rouvrir, le Costco, Ikea, etc., etc., mais on peut pas rouvrir les gyms et les restaurants. Des fois, c'est pas toujours facile à suivre pour le citoyen.
Ça, je pense pense que le gouvernement, faut qu'il s'explique là-dessus, mais une des choses pour les restaurants, moi, je peux vous dire, c'est l'alcool, parce ouais. que quand on a commencé à avoir un petit verre dans le nez, les virus en profitent beaucoup, et les gyms, ben, il y a le fait que les gens ont chaud, les vestiaires, il y a beaucoup de respiration forte qui se font parce que les gens font beaucoup c'est plus propice. Mais maintenant, est-ce que je suis allé justement dans un centre d'achat en fin de semaine, j'avais mon masque, je surveillais, mais effectivement, j'ai vu un centre d'achat, moi, qui était extrêmement proactif en enlevant, par exemple, toutes les tables où les gens pouvaient s'asseoir, etc. Fait, est-ce qu'il y a du travail à faire de ce côté-là? Probablement. Mais c'est pas parce qu'il y a du travail à faire dans certaines zones que d'autres zones doivent être justifiées de se relâcher. Mais c'est complètement différent, là.
Juste avant qu'on cesse, Dr. Marquis, ben, je sais qu'on doit vous laisser filer, mais si je me fais l'avocat du diable, c'est que les Québécois ont été habitués à la notion de la balance des inconvénients au printemps. Et là, certains vont dire, ben, justement, là, au niveau de la santé mentale, la santé physique, les besoins de socialisation, on commence à peser très, très fort là, dans la colonne des impacts reliés à ces manques-là. Donc, on l'a fait où, la balance des inconvénients, à ce stade-ci?
En fait, c'est relativement simple. On l'a fait là où la société est prête à en payer le prix. Donc, si les gens sont prêts à ce qu'on reprenne du retard dans les traitements de cancer, sur les salles d'opération, s'il y a des gens si la société est prête à voir des jeunes ne pas pouvoir avoir accès à des soins médicaux, ben on lève toutes les restrictions, puis on laisse le virus faire son travail et on vit avec les conséquences. Et rendu là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des conséquences que le peuple est prêt à accepter.
Très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Marquis.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci. Dr. François Marquis, chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La question que tu as posée, Jonathan, est bonne, parce que dans le fond, c'est la question. Si on prend les centres commerciaux, est-ce que ça fait partie, par exemple, de la gestion des avantages versus les inconvénients en lien avec la santé mentale? Je vais te donner juste mon opinion. Moi, je pense que pour la santé mentale, c'est ça le critère. Je pense que les gyms, le sport, les restaurants devraient passer avant les centres commerciaux. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui vont changer les idées aux centres commerciaux. Mais dans une qualité de vie, encore là, je peux me tromper, puis je suis prêt à vous lire au 25226. Tu sais, dans la qualité de vie, si tu classes un peu ce qui améliore une qualité de vie, je vais mettre le sport avant les centres commerciaux, je vais mettre sortir au restaurant avant les
ouais,
activités culturelles.
Si tu fais, faudrait vraiment parler, j'imagine, un économiste, ouais. Là, mais mettons, si tu prends le nombre de personnes qui travaillent dans des gyms versus le nombre de personnes qui travaillent dans des commerces.
C'est ça.
Les impacts que ça aurait sur les mises à pied de toutes les personnes qui travaillent, ou mises à pied temporaires ou autres, là, dans tous les commerces versus, ben, quelqu'un peut, parce que, on va parler à un propriétaire de gym, ils ont des enjeux, je les respecte, mais on peut aussi s'entraîner chez nous.
Il y a
moyen d'être.
Ouais.
Alors que de travailler, d'avoir un emploi, ça s'improvise pas à la maison non plus.
Puis à la limite, la restauration, ben, tu peux aller te chercher du take-out, tu peux en manger à la maison, mais je pense que la réalité économique y est pour beaucoup, là, d'ouvrir les centres commerciaux. Là. Le gouvernement fait certains calculs aussi. Là. Je pense que la santé publique prime, même dans leurs réflexions eux autres. Mais il y a eu quelques calculs économiques qui sont faits pour laisser ouvrir les Costco, IKEA et les centres commerciaux.
Mais tu disais que la question était pertinente, mais j'ai bien aimé la réponse. Puis vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Parce que ce que Dr. Marquis dit, c'est que dans le fond, il n'y a pas de bonne réponse.
C'est pas la Suède a raison, puis l'autre pays n'a pas
ça.
Raison.
Tu sais, c'est pas là, t'as pas une poignée de clés dans tes mains, puis t'as une serrure, puis il faut juste que tu trouves la bonne clé. Là.
Non, toutes les
clés rentrent. Et c'est juste que chaque mesure va avoir des conséquences. Et chaque secteur d'activité peut avoir des bonnes raisons de plaider pour sa réouverture ou son maintien. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu analyses qu'est-ce qu'il y a quoi comme conséquence.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme conséquence. Et quand Dr. Marquis dit, ben, on peut tout réouvrir si vous voulez, mais il faut qu'on accepte que le système de santé va être encore une fois surchargé, qu'on va encore davantage délester.
Et voilà.
Reporter des cas d'opération, dépistage, cancer, etc. C'est assez logique aussi.
Parce qu'on pourrait l'appliquer la recette de la Suède. T'sais, quand il dit qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, si on fait comme la Suède, il y aura des conséquences. Oui, on va être moins limité dans nos activités. Par contre, nécessairement, il y aura une surcharge supplémentaire dans les hôpitaux. Plus de décès, plus de choix à faire quand va venir le temps de soigner telle ou telle personne. C'est ça la conséquence d'y aller à la suédoise. Je regardais ce qui se passe en France. Je ne sais pas si tu as vu ça, là. Mais en France, vous savez, depuis plusieurs jours, Il y a un couvre-feu. Parce qu'eux autres, ils ont décidé de laisser ouvert les restaurants qui doivent fermer, je me souviens pas si c'est 23h ou minuit, là, mais il y a un couvre-feu. Parce que donc, restaurant, bar, théâtre, c'est 21h, c'est ça, je viens de le trouver. Donc, restaurant, bar, théâtre, cinéma, c'est ouvert en France présentement. Ça ferme à 21h. Donc, on coupe la fin de soirée. Par contre, en France, il y a 52 000 nouveaux cas, là. Je comprends que la France, c'est une population beaucoup plus importante que le Québec, là. 52 000 quand même, il y a un nouveau cas de COVID-19, là, malgré le couvre-feu. Donc, il y a des... Encore là, c'est probablement la gestion des conséquences aussi, là. Donc, en on Italie, laisse un peu de lousse, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de cas quotidiens encore.
Italie, resserrement des mesures.
Ouais.
Et dans un pays où on mange très tard, là,
oui.
Ferme les restaurants à 6 heures. 18 heures, les restaurants sont fermés. Là.
Ces autres, c'est rare qu'ils soupent à 18 heures. Là. C'est plus 20 heures, 20h30. Même en Espagne, c'est plus 22 heures.
Oui, non, soupes. À 18 heures, ils commencent à penser à prendre l'apéro.
Exactement. C'est en plein ça. C'est... On s'ennuie de ça, voyager, hein, puis de profiter de la vie un peu. Ça reviendra peut-être un jour.
Ah oui, ça va revenir.
Ça va revenir. 10h37, minutes, vous êtes dans Trudeau-Landry, on vient.